Claude, il faudrait que je te parle.
Centrale cervicale.
Oui, ici c'est l'oreille, elle dit il faudrait que je te parle.
Sur quel ton?
Un ton nerveux.
Bon, ça y est, corde vocale.
Oui.
Réponds, mais qu'est-ce qu'il y a, ça a l'air grave.
Mais qu'est-ce qu'il y a, ça a l'air grave.
RTL.
Je t'ai trompé.
Elle dit je t'ai trompé.
Bon, elle le trompait. La trompette, on t'a rien demandé.
La curiosité retourne à l'école.
Allô, centrale cervicale.
Ici le département de renseignement et de curiosité.
Ouais.
On voudrait savoir avec qui elle a fait ça.
Attends une minute. Centrale.
C'est le département émotionnel.
Oh merde.
Je sais pas si tu tiens, moi, de savoir avec qui elle a fait ça, la fille.
Si Denis Bonnec, Thomas Hugues.
Ça va pour toi, l'émotivité?
Allez, je vous fais un
Les rouages du cerveau, d'après l'humoriste François Pérus. C'est très, très drôle. Bonjour, Sébastien Boller.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes notre prof du jour, vous êtes docteur en neurosciences et rédacteur en chef du magazine Cerveau et Psycho. C'est vrai qu'il mouline ce cerveau hein, pendant le confinement, on peut tous le dire. Il y a beaucoup d'informations à intégrer, beaucoup de questions aussi sur notre vie personnelle, sur la nation, sur le monde d'après. Quel est l'impact du confinement sur le cerveau? Est-ce qu'il peut surchauffer?
Oui, c'est le cerveau, il est mis à rude épreuve. Hein. Le confinement, ça lui impose en fait des conditions de vie qui sont pas naturel pour lui. Hein. La première chose, d'abord, c'est la limitation du déplacement. Or, le cerveau humain recherche en fait du mouvement et de l'exploration. Hein. C'est une des bases même de l'apprentissage chez l'enfant. Même la plupart des animaux et des mammifères aiment explorer leur environnement. On sait que quand on est capable d'aller découvrir d'autres horizons, de sortir, de bouger, ça active des neurones dans notre cerveau qui libèrent de la dopamine. Ça fait du bien. C'est un moteur hein, de notre espèce. On a toujours été Homo sapiens, a toujours aimé bouger, migrer, voyager, découvrir. Donc déjà, le fait de ne pas pouvoir bouger, c'est quelque chose de difficile pour le cerveau, donc il va falloir en tenir compte. Et puis il y a autre chose qui est pas naturel pour notre cerveau, c'est que lui, il est câblé pour faire de la socialisation. Il y a même un scientifique qui s'appelle Robin Dunbar, en Grande-Bretagne, qui a montré que à mesure que le cerveau des primates augmentait de volume à travers l'évolution jusqu'à l'homme, ça nous a permis de vivre dans des groupes toujours plus grands, parce que le cerveau sert avant tout à entretenir des contacts sociaux. Et quand on dit contacts sociaux, ça veut dire des contacts réels. C'est-à-dire qu'on ne peut pas entièrement remplacer le contact social par des contacts virtuels. Donc là, de ce point de vue-là, ben, notre cerveau, là aussi, il est confiné, il est obligé de prendre sur lui, il est obligé de mettre en œuvre des capacités très spéciales qu'on appelle des capacités d'inhibition. C'est la capacité de se forcer à faire quelque chose qui n'est pas naturel, qui ne fait pas plaisir. Mais de ce point de vue-là, c'est la capacité de volonté, de tenir comme ça. C'est quelque chose qui peut nous renforcer aussi.
Et comment on peut gérer cette incertitude, par exemple, Sébastien Boller? Alors, bien sûr, on peut toujours s'occuper, aller explorer ses placards et les ranger un peu, ça on l'a tous fait, mais on ne peut pas évidemment faire tout ça. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que vous avez une philosophie, des conseils qui permettent de s'ouvrir, de s'apaiser, de prendre soin de ce cerveau le temps du confinement?
Et oui, c'est vrai que l'incertitude, c'est apparemment peut-être ce qui est le plus difficile à vivre. Et on n'a pas tous la même capacité à supporter l'incertitude. Il y a un trait de caractère qui s'appelle la tolérance à l'incertitude. Il y a certaines personnes qui le supportent naturellement bien et d'autres beaucoup moins. Et il y a des études même qui ont montré que ceux qui se ruent sur les rayons de pâte ou les papiers toilettes, ce sont des personnes qui ont un très faible niveau de tolérance à l'incertitude. Alors que l'autre extrême peut être assez mauvais aussi. En situation normale, même si vous vous dites je risque d'avoir un cancer du poumon un jour, alors, ça peut être dû à mes gènes. À ce moment-là, je peux rien y changer, je vais pas changer mes gènes, donc ça sert à rien de se préoccuper pour cette incertitude-là. En revanche, si vous dites, il y a une partie qui tient au fait que je fume ou que je fume pas, ce paramètre-là, vous avez prise dessus. Donc là, il faut se concentrer dessus. Et dans la situation actuelle, pareil. On est dans une incertitude. Ce que va devenir la pandémie au niveau mondial, ça dépend de tellement de facteurs et de tellement de personnes et tellement d'instances politiques, économiques, institutionnelles que je n'ai pas prise dessus. Donc il ne faut pas que je me ronge les sangs sur cette incertitude-là. En revanche, si je me dis que je sors de chez moi de façon imprudente, à ce moment-là, je peux me contaminer, je peux contaminer les autres. Donc, cette partie de l'équation, j'ai prise dessus.
Sébastien Boller, on va quand même faire connaissance avec notre cerveau. Combien pèse un cerveau adulte et de quoi il est constitué?
Un cerveau adulte, c'est environ 1,4 kg, principalement d'eau et de graisse. C'est ça qui constitue les cellules nerveuses du cerveau. Il y en a à peu près 100 milliards.
100 milliards de neurones, c'est ce qu'on appelle les neurones?
Oui, tout à fait. Il y a 100 milliards de neurones et puis il y a aussi, c'est vrai, 200 milliards de cellules gliales qui ne sont pas réellement des cellules qui transmettent l'information. Mais les neurones, eux, sont 100 milliards à la naissance, puis ça diminue peu à peu.
C'est quoi un neurone?
Ces neurones, ouais, justement.
Ben, un neurone, c'est une cellule qui a une forme très particulière, hein, qui a un prolongement qu'on appelle un axone, qui permet de propager l'électricité jusqu'à des neurones voisins. Donc c'est un petit peu comme des câbles électriques. Puis ils ont plein de petites antennes qui s'appellent des dendrites, qui permettent de capter les informations de leurs voisins.
Sébastien Boller, on va évidemment continuer de découvrir le rôle des neurones, notamment, qui sont absolument indispensables. Mais si on continue de faire le tour du propriétaire de notre cerveau, comment il s'organise ? Il y a deux hémisphères, bon, le gauche, le droit, je sais ça déjà. Il y a quoi d'autre
oui,
en fait
oui. Il y a principalement deux hémisphères et puis il y a quatre lobes. Les lobes, c'est des grandes subdivisions du cerveau. Alors, il y en a un à l'arrière, c'est le lobe occipital, qui sert principalement à voir. C'est les scènes visuelles, la vision. Il y a un lobe sur le côté, au niveau des tempes, qui s'appelle le lobe temporal, qui lui sert beaucoup à mémoriser, où il est impliqué dans l'audition aussi, la perception des sons. Alors sur le dessus du cerveau, il y a le lobe pariétal, qui lui intègre plusieurs modalités sensorielles, très important pour le toucher aussi. Et puis tout à l'avant, il y a le lobe frontal, qui lui prend en compte toutes les fonctions très abstraites, hein, abstraction, planification, le fait de faire des projets, de réfléchir au sens de sa vie, ce genre de choses. Puis la flexibilité mentale, la capacité de créer des stratégies adaptées à l'environnement.
Retour à l'école avec Sidonie Bonnec et Thomas Hugues.
Apparemment, on n'utilise qu'une infime partie de notre potentiel cérébral. Mais quand on est éveillé, quand on est endormi, l'esprit est capable d'à peu près tout.
Sur RTL.
Qu'est-ce qu'ils ont tous à me regarder ?
C'est mon subconscient qui devine qu'un autre que lui est en train de créer ce monde. Plus vous changez de choses, plus les projections convergent rapidement vers vous.
Convergent ?
Elles devinent la nature étrangère du rêveur. Elles attaquent comme des globules blancs luttant contre l'infection.
Quoi ? Elles vont nous attaquer ?
Non, non. Juste vous.
Extrait du film Inception, film signé Christopher Nolan avec Léo DiCaprio dans le rôle principal. On se passionne pour les super pouvoirs de notre cerveau avec Sébastien Boller, docteur en neurosciences, rédacteur en chef du magazine Cerveau et Psycho. Vous avez commencé à l'évoquer rapidement tout à l'heure en parlant des primates et de l'évolution de la taille du cerveau chez les primates. Notre cerveau d'Homo sapiens, comment a-t-il évolué ?
Depuis plusieurs centaines de milliers d'années, hein, depuis Homo erectus jusqu'à Homo sapiens, en augmentant de volume et puis en se plissant. C'est-à-dire que l'extérieur du cerveau, le cortex cérébral est devenu de plus en plus plissé. Cette espèce chiffonnée que vous connaissez peut-être, ça a permis en fait de caser une plus grande surface de cortex à l'intérieur du crâne. Et grâce à cette grande surface de cortex, on a pu développer des capacités de langage, de coopération, de planification, de fabrication d'outils. Enfin, c'est tout le succès de l'humanité après.
Donc ça veut dire que c'est pas forcément...
C'est une science, ça. C'est ça, la science des bosses du crâne, j'ai vu ça.
Alors la science des bosses du crâne, ça c'est relié, c'est pas tout à fait pareil, parce que c'est vrai qu'à une époque au 19e siècle, il y a un monsieur qui s'appelait Franz Gall, pas du tout la chanteuse, hein, Franz, un Allemand, et qui pensait qu'on pouvait voir sur la forme du crâne des bosses qui reflèteraient certains traits de caractère. Parce qu'ils pensaient qu'effectivement ça reflétait peut-être la forme du cerveau. Aujourd'hui on sait que c'est pas vrai et ça a donné lieu à beaucoup de débordements. Il y a eu une théorie même du criminel né qu'on pourrait détecter d'après la forme de son crâne. Aujourd'hui on en est revenu, mais aujourd'hui on étudie quand même non plus la forme du crâne mais la forme des sillons du cerveau, c'est-à-dire ces petits replis à l'intérieur de notre cerveau qui seraient liés dans certains cas à certaines capacités cognitives effectivement.
Sébastien Boller, on parlait de la maturité de notre cerveau. On sait que, pour moi, j'ai un petit garçon qui a 16 mois, donc je vois que son cerveau n'est pas tout à fait mature. Il ne maîtrise pas encore vraiment la parole, il ne maîtrise pas toujours ses gestes. Mais à partir de quand on peut dire que notre cerveau est complètement, définitivement mature ?
Ça n'arrête jamais. On n'arrête jamais de maturer notre cerveau. C'est la définition du cerveau, c'est qu'il est plastique. Et c'est ça qui fait la force du cerveau humain, c'est qu'il est né pour apprendre. Par rapport à d'autres espèces animales où beaucoup de comportements sont déjà prêts à la naissance, un bébé gazelle, il est déjà prêt à faire à peu près tout ce qu'il faut au bout de quelques jours. Un cerveau humain, lui, il est en constant remaniement. Et c'est ça qui fait qu'on peut toujours acquérir des nouveaux apprentissages. Mais par contre, il y a quand même une phase essentielle, c'est le développement des grandes lignes de communication dans le cerveau qui se fait au maximum jusque vers 20-21 ans. Là, les grandes autoroutes du cerveau sont en place et après, c'est de l'apprentissage plus fin.
Ça veut dire quoi, Sébastien Boller, pour tous les élèves, les étudiants qui nous écoutent, leurs parents, leurs grands-parents, que jusqu'à 21 ans, on ne peut pas exiger un comportement irréprochable ? Qu'est-ce que ça implique ?
Les ados ont des excuses,
c'est ça. C'est pas pour trouver des excuses, mais bon...
Ben c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut pas l'exiger, mais il faut l'exiger quand même. C'est-à-dire qu'il faut avoir une forme d'indulgence, savoir par exemple qu'il y a certaines zones du cerveau qui sont responsables des émotions, des désirs ou des impulsions qui, chez un ado de 14-15 ans, sont déjà assez matures et qui donc le poussent à avoir beaucoup d'envie dans l'instant comme ça, d'être très dans la demande, dans l'impatience, alors que la partie à l'avant de son cerveau, le cortex frontal, lui, n'est pas encore tout à fait mature et surtout les connexions entre les deux sont en train de s'établir. Donc ça donne des comportements où vous avez des jeunes qui ont du mal à se maîtriser. Donc il faut comprendre que c'est en partie à cause de cette relative immaturité cérébrale. Mais ce qui est très important à comprendre, c'est que le cerveau va pouvoir maturer à ce niveau-là uniquement si on incite quand même le jeune à attendre avant d'avoir sa PlayStation, enfin à discipliner ses propos, et que si on le fait pas, à ce moment-là, il va pas arriver à maturité. Donc on peut pas tout attendre, mais il faut quand même exiger. Il faut mettre des règles.
C'est un bon argument éducatif, ça. Attends, ça va permettre à ton cerveau de maturer. Est-ce qu'il y a un lien entre la taille de notre cerveau, Sébastien Boller, et notre intelligence, notre QI?
Ah, ça, c'est une question, c'est vrai, c'est délicat parce qu'il y a un lien statistique, c'est-à-dire qu'en moyenne, les personnes qui vont avoir un plus gros cerveau vont avoir tendance à avoir un QI plus élevé. Alors, déjà, le QI, c'est un peu limité comme notion, mais c'est celle qu'on utilise. Donc, c'est une moyenne. Après, ce que ça veut dire, la statistique, ça veut dire que si vous prenez une personne donnée, que vous observez le volume de son cerveau, ça ne vous donnera aucune certitude sur son niveau d'intelligence.
Sébastien Boller, c'est ça. Ça se voit comment l'intelligence dans le cerveau ? Est-ce que ça s'observe ?
Non, on n'a pas de marqueur clé de l'intelligence à ce niveau-là. Ce qu'on constate quand même, c'est que des personnes qui développent des capacités mentales de plus en plus expertes, il y a peu à peu une sorte de réduction de l'activité cérébrale face à une même tâche. C'est comme chez un athlète qui s'habitue à s'entraîner, au bout d'un moment, pour faire le même effort, il a besoin de beaucoup moins se fatiguer. Donc c'est un peu le seul indice dont on dispose, c'est que par l'entraînement à une certaine tâche intellectuelle, peu à peu on devient un athlète et on réduit sa dépense d'énergie à ce niveau-là. Mais vous avez aucune observation anatomique qui va vous permettre de dire cette personne est plus intelligente qu'une autre, non.
Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça s'appelle la mémoire centrale. Elle contient tous les souvenirs vraiment importants dans la vie de Riley. Comme quand elle a marqué pour la première fois. Oh, c'était incroyable.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues. Restez curieux avec RTL.
Et voilà le travail. Woohoo ! Encore une journée parfaite. Bien joué les amis. Envoyons tout ça dans la mémoire à long terme.
Extrait de ce film d'animation formidable où on est dans le cerveau de cette petite fille, Riley. Le film s'appelle Vice Versa. Et bien là, on est dans votre cerveau aussi avec notre prof du jour de SVT, Sébastien Boller, docteur en neurosciences et rédacteur en chef du magazine Cerveau et Psycho. Vous nous l'avez dit, on dénombre 100 milliards de neurones à peu près dans un cerveau humain. Quel est le cycle de leur vie ? Comment ça se passe dans notre cerveau ?
Ah ben, un neurone, d'abord, il apparaît, il naît dans le cerveau de l'embryon. Puis après, à mesure que l'embryon se développe, il va gagner sa place finale dans le cerveau en plein développement. Et puis après, l'enfant va naître, il va grandir. Et puis, de plus en plus de neurones vont être produits. Il y a une explosion du nombre de neurones qui se poursuivent jusque l'âge vers 2 ou 3 ans. Et puis, ils commencent à produire plein de synapses, des petites connexions qui leur permettent de se connecter les uns aux autres. Mmh. Et puis ensuite, à partir de 2-3 ans, là, il commence à y avoir de l'élagage. C'est-à-dire qu'il commence à y avoir des neurones qui meurent, des synapses qui meurent. Et ça a un rôle très important, en fait, parce que on parlait tout à l'heure du suicide des neurones. Les neurones vont avoir tendance ensuite à mourir de façon délibérée, et seuls ceux qui sont connectés fortement les uns aux autres par des connexions qui leur permettent d'entrer dans des réseaux qui sous-tendent des fonctions importantes, comme apprendre à parler, apprendre à jouer au ballon, à détecter les émotions sur le visage de ses parents. Tous ces neurones qui, organisés en réseau, ont des connexions les uns avec les autres, vont mieux survivre. Alors que ceux qui sont, entre guillemets, inutiles, à ce moment-là, décident délibérément de disparaître pour laisser les autres avoir plus d'efficacité.
C'est bien garder les neurones pour apprendre à jouer au ballon, par exemple. C'est très, très, très bon.
Mais ça veut dire, Sébastien Boller, concrètement, quand on est parent, si on n'apprend pas à notre enfant à chanter, mais plutôt à danser, les neurones qui permettront d'avoir ce talent de bien chanter, poser sa voix, etc., vont disparaître ?
Il reste toujours une réserve de neurones qu'on peut utiliser un peu à faire ce qu'on veut, hein. Si vous apprenez pas à chanter avant l'âge de 3 ans, on pourrait quand même après. Simplement, plus ça se fait jeune, plus il y a une réserve importante disponible, et plus ils sont plastiques aussi. Donc ce qui fait que les apprentissages, plus ils sont précoces, plus ils vont reposer sur des réseaux importants et robustes qui vont ensuite tenir toute la vie. Donc voilà, il faut choisir ce qu'on veut faire en premier, sans non plus trop se prendre la tête, parce qu'il reste toujours une plasticité résiduelle.
Et donc ce programme là, ce suicide des neurones, on appelle ça l'apoptose, c'est ça, apoptose ?
Oui, l'apoptose. C'est le terme scientifique dérivé du grec et qui désigne ça, le fait que c'est un programme génétique qui prévoit que des neurones vont devoir se suicider. Alors ils se font pas mal, hein, ils ressentent rien, mais c'est ça qui nous aide à être des êtres d'apprentissage, c'est très très important. On part avec une énorme réserve de 100 milliards, à l'arrivée, à la fin de la vie, on en a perdu quand même, c'est guère que 10%, hein. Il en reste beaucoup, mais c'est des lagages fins qui permet d'apprendre.
Et donc, finalement, c'est une bonne nouvelle, ça nous permet d'apprendre. Est-ce que c'est vrai, j'ai lu ça je ne sais combien de fois, entendu ça dans des conversations je ne sais combien de fois, est-ce que c'est vrai que nous n'utilisons que 10% ou 15% de notre cerveau ?
On n'en sait absolument rien. Cette question a chaque fois été posée. On ne sait pas d'où elle vient. Alors, on a cru détecter l'origine de cette légende urbaine. Il semblerait que ce soit en fait une phrase d'Einstein qui l'aurait lancée comme ça un jour. De toute façon, je n'utilise que 10% de mon cerveau. Il aimait bien les phrases. C'est une façon de dire ce qu'il ressentait. Mais comme toute phrase d'Einstein était prise pour une vérité, ça a commencé à circuler après. Et était reposée à chaque fois aux neuroscientifiques qui disent, mais en fait, je suis incapable de répondre à cette question. C'est peut-être 10%, c'est peut-être 1%, c'est peut-être 50%, on ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est que si vous essayez personnellement de voir quelle réserve de neurones il vous reste, vous dites, je vais essayer d'apprendre une langue en plus, je vais essayer d'apprendre un sport en plus. Vous voyez qu'il y a toujours réserve. Donc si ça se trouve, on utilise encore beaucoup moins que ça. En tout cas, il n'y a aucun chiffre clairement établi.
Sébastien Boller, vous publiez ce livre « Le bug humain, pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la planète et comment l'en empêcher ?» C'est un titre qui fait frémir quand même. Pourquoi notre cerveau nous pousse, selon vous, à aller droit dans le mur ?
Notre cerveau, il a ce problème-là, c'est qu'il est à la fois formidablement puissant, vous avez bien compris, et notamment grâce à son cortex. Ça, c'est l'arme fatale de Homo sapiens, c'est ce qui nous a permis de composer des symphonies, d'envoyer des fusées dans l'espace, d'inventer des antibiotiques. C'est le pouvoir d'abstraction qui nous permet de créer des technologies qui façonnent le monde selon notre désir. Le seul problème, c'est que nos désirs, eux, ils sont pas du tout intelligents. Ils viennent d'une partie plus profonde de notre cerveau qui s'appelle le striatum, et ils ont pas varié depuis qu'on est des hommes préhistoriques dans la savane. Et c'est toujours vouloir manger, se reproduire, dominer les autres, acquérir du pouvoir, faire le moins d'efforts possible. Ils sont codés dans cette partie profonde de notre cerveau. Et malheureusement, la partie puissante, intelligente de notre cerveau est au service de ce striatum profond qui veut nous faire aller vers toujours plus de pouvoir et de domination et de consommation. Et aujourd'hui, on continue à vouloir consommer, mais avec des moyens illimités donnés par notre cortex. Et ça nous amène dans le mur au niveau climatique parce qu'on n'arrête pas d'épuiser les ressources de la planète. Et aussi, on le voit aussi parce que maintenant, on commence à avoir des retours de bâton des écosystèmes et de la nature avec des pandémies. Mais si on n'y met pas un terme, ça va être beaucoup plus derrière. Hein.
Rapidement, Sébastien, on peut reprendre un peu le pouvoir. La méditation, se tourner vers les autres sont des bonnes valeurs, ça ?
La méditation permet, par exemple, effectivement, de mieux domestiquer nos désirs, de se satisfaire de moins tout en ayant du plaisir. Donc ça, c'est très, très important. Et puis l'altruisme et le partage, même quand on a peu, on s'est aperçu il n'y a pas longtemps que ça permet aussi de libérer cette fameuse hormone, cette molécule du plaisir dans le cerveau, la dopamine, et que c'est un plaisir dont on ne se lasse pas. Ça libère vraiment des décharges de plaisir dans notre cerveau de partager. Donc on pourrait aller vers un autre modèle de société qui serait moins tourné vers l'accumulation personnelle et plus vers le partage.
Et c'est ce qu'on vit quand on présente et qu'on prépare cette émission La Curiosité. Merci beaucoup à toute l'équipe. Merci à vous Sébastien Boller.
Merci.
Le bug humain, pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la planète et comment l'en empêcher, c'est absolument passionnant. Et c'est à lire chez Robert Laffont. À bientôt, c'est la fin de l'école.
À bientôt.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La Curiosité retourne à l'école.
Sur RTL.